Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime. Maxime, ça va, la pêche?
Ouais, la totale pêche là.
C'est toi qui nous ramène un petit sujet sur la crédibilité, une question que tu te posais avec Morgane, qui n'est pas là aujourd'hui exceptionnellement.
Ouais, elle est à son âme.
Mais tout à fait, mais qui nous écoute hein, depuis la Bourgogne où elle s'est rendue.
Parce qu'elle a la meilleure raison en Bourgogne qu'ailleurs.
Tout à fait. Nous sommes également avec Adrien.
Bonsoir.
Podcast
bonjour.
Extraordinaire. Nous sommes avec Jeff.
La patate, tout va bien.
La banane. Et puis moi, c'est ça que j'aime bien aussi à la cellule, c'est que il y a toujours, vous savez, un petit peu le clodo, le gars qui traîne. Le gars qui traîne dans le coin, c'est l'invité surprise qu'on savait pas qu'il serait là.
Enfoiré.
Vincent est avec nous. Voilà, oui, Vincent, ouais. Il mange ses frites et son jambon à côté de nous. Ça fait plaisir que tu sois là pour
il
ce podcast.
Une boule de glace en dessert ou pas?
Peut-être, je sais pas. S'il est sage. Pour ce podcast sur la crédibilité, Maxime, oui. C'est ce sujet que tu veux aborder.
Tu me refiles la patate chaude, ouais.
D'où vous est venu avec Morgane cette idée de podcast sur la crédibilité? Quelle est l'intuition de base qui vous pousse à cette thématique?
Alors, l'intuition de base, c'est que lorsque Morgane a commencé à faire MJ, donc avec Sens, on s'est vite, vu qu'on a masterisé à deux, ouais. On rentrera pas plus dans le détail, on s'est vite rendu compte que spontanément, les joueurs, enfin les PJ venaient parler à Morgane spontanément quand il s'agissait de parler à un PNJ féminin.
D'accord.
Et pour les hommes, c'était à moi qui venait parler. Et du coup, elle s'est demandé, mais attends, mais comment tu fais quand t'es MJ seul en fait? Et vu qu'elle l'a fait toute seule après, et moi aussi, on s'est dit, c'est vrai que c'est bizarre, on a l'air d'être moins crédible. Il y a quand même pas mal de personnages pour lesquels on le fait bien, mais les joueurs en face, c'est pas pareil. Et on a demandé aux joueurs, ils ont dit, c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Et du coup, quand on a lancé le sujet, même moi avec mes joueurs, je leur ai dit, ça va quand je joue des femmes, ils me font, ah ouais, non, c'est bien, tu le joues bien, c'est juste que c'est quand même toujours un peu perturbant quand en vrai devant toi t'as un mec barbu et t'imaginais que t'as une jolie fille qui est en train de te draguer. C'est toujours un peu perturbant. Et nous, on avait fait le parallèle avec le GN, parce que dans le GN, on a aussi ce problème de crédibilité.
D'accord.
Ça y est, je me souviens, tu vois, en parlant, ça me revient. On a commencé à se poser la question après le podcast sur le GN, où on parlait de crédibilité.
Ouais.
Parce que faut dire ce qu'il y a dans le GN, il y a aussi des problèmes de crédibilité. Le jeu de rôle grandeur nature, c'est-à-dire quand on joue nous-mêmes les personnages. Il y a des problèmes parce que quand tu joues à un jeu de rôle Poudlard où tout le monde est censé avoir 16-17 ans et que t'as une... je vais pas faire de caricature, mais quand même...
que t'as le gros barbu. Allez,
non,
moi,
j'ai eu le gros barbu et la grosse de 45 ans qui était censée jouer une gamine de 16 ans à côté de toi et tu veux dire
le moment où tu dois lui rouler une pelle, t'es pas trop...
Là, non. C'est ça, mais le pire, c'est que c'est par exemple moi qui étais probablement le plus jeune du GN qui devait jouer le mec le plus vieux parce qu'il avait 18 ans dans l'histoire et qu'il avait redoublé une ou deux fois. Donc tu vois, là t'as un coup en termes de crédibilité, t'as un problème,
on peut citer
t'as un petit problème quoi. Ouais, et en jeu de rôle, je trouve qu'on retrouve le même problème quoi. Des fois, t'es là en face, alors tu fais un effort d'imagination, mais mine de rien, t'es en face de ton pote quoi. Donc je me dis, je sais pas quelles sont les problématiques que ça soulève, mais juste.
Moi, ce qui est marrant, c'est que ta définition de la crédibilité, quand on a évoqué le sujet de podcast avant de commencer, c'est que j'avais pas du tout ça en tête. Moi, quand tu parles de crédibilité, je vois plutôt le fait que dans le jeu de rôle, tu vas souvent te ramener à jouer des personnages dont qui ont des compétences ou des savoirs ou des attributs que toi tu n'as pas du tout. Et par exemple,
c'est un peu le même sujet, hein.
Oui.
Là, c'est physique.
Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il parlait vraiment que de l'aspect physique.
Et toi,
moi, en général,
plutôt mental.
J'ai plutôt l'aspect mental derrière la tête.
T'es pas mathématicien, tu dois jouer à un mathématicien.
Ça, ouais.
Qu'est-ce qui se passe, Jeff?
Mais de toute façon, vu qu'on est cinq autour de la table, je pense que chacun aura sa vision de la chose, je pense, quelque part.
Ouais,
du moins,
justement.
Le fait de parler crédibilité, chacun va avoir son idée. Mmh. Effectivement, toi, Adrien, c'est ça. Moi, de mon côté, quand
Maxime
a commencé à évoquer ce podcast-là avant qu'on enregistre, moi, de mon côté, c'était effectivement de parler de crédibilité, réalisme dans le jeu. Le bon vieux truc de « Oh ouais, mais attends, mon personnage, il a sauté de ton en toi. » Et les autres qui vont dire « Bah non, il peut pas faire ça, c'est pas crédible, c'est pas réaliste. » C'est souvent quelque chose qu'on entend, ça aussi, en table de jeu.
Ouais.
Alors qu'on disait avec Vincent juste avant le podcast la même chose, c'est bon, est-ce que c'est réaliste d'avoir un dragon devant soi? Non, c'est pas plus réaliste, mais pourtant c'est prévu dans l'univers du jeu. Ouais. Donc moi c'était plutôt cet axe là que je voyais aussi.
On va les traiter, Vincent, t'en avais encore un autre?
Ouais, j'en avais encore un autre. C'est la crédibilité des univers en fait dans les bouquins de jeux de rôle. C'est-à-dire, quand tu écris un historique d'univers qui remonte sur des milliers et des milliers d'années, c'est des choses qui ne servent à rien en jeu, mais qui vont juste servir à poser la crédibilité d'un univers.
Est-ce que ça rejoint, alors attends, qui servent à rien, tu disais?
Bah, c'est-à-dire que quand, voilà, quand tu fais une histoire.
Le fluff. Vous connaissez ce concept du fluff?
Oui, le fluff, ouais, on l'utilise beaucoup dans le monde 40K.
C'est l'idée que, en fait, t'as une espèce de tout un tas de textes dans les jeux de rôle qui ne sont que du fluff, au sens où ce n'est que.
C'est du BG, le background.
Des textes d'ambiance, mais qui finalement sont assez inertes d'un point de vue du système et d'un point de vue concret de ce qui se passe au cours d'une partie de ce jeu. Ça va être tous les textes qui concernent.
Mais c'est même pas que les textes d'ambiance, c'est-à-dire quand tu décris l'histoire, ce qui s'est passé les 2000 ans avant le présent, avant le moment où les joueurs vont intervenir et vont jouer, ça ne sert en fait à rien d'autre qu'à poser la crédibilité d'un univers. Un univers qui a une histoire.
D'accord.
Même si jamais tu vas t'en servir pour créer des scénarios ou.
J'ai tendance à parler aussi de couleur esthétique, c'est-à-dire que.
Oui, non, là ça va un peu plus loin. C'est le fait de donner des détails, de donner la cosmogonie en fait de l'univers dans le détail.
Ouais.
Ça doit coller à ce qui va être joué pendant la partie, mais ça va parfois beaucoup plus loin et sur des trucs qui sont complètement impossibles à mêler dans une partie.
Bah ouais, pardon, excuse-moi, vas-y.
Vas-y, vas-y.
Enfin, voilà, c'est...
Pour sortir du cadre du jeu de rôle, pour ça, je donne juste l'exemple de Warhammer 40 000 ou Warhammer même, où il y a des bouquins par milliers, il y a du fluff partout.
Fabien.
Il y a un univers complet qui a absolument, mais rien à voir avec le jeu de plateau quand tu joues. Mais c'est cool parce qu'on est tous, quasiment tous ceux qui jouent, en fait, ils lisent les bouquins après. Mmh. Et ils aiment bien.
Oui, c'est vrai qu'en même temps, quand tu joues KO contre Space Marines, il y a personne qui va. Enfin, les Space Marines n'ont pas besoin de se dire, au fait, mais quel connard cet Horus pour se mettre sur la gueule, quoi.
C'est ça. Et puis même Space Marine contre Space Marine, on peut se trouver des excuses, hein, on s'en fiche. Hein. Mmh.
Très bien.
De toute façon, je dirais Warhammer 40 000, histoire de faire un troll. Hein. Comment faire un truc bas du front mais crédible, quoi.
Oui, mais c'est cool.
Oui.
Bah non, mais au moins, on va dire, ça fait couleur. C'est la couleur du jeu d'être bas du front, on va dire.
C'est vrai.
Oui, le côté ouais.
Si.
Non, c'est très
justement,
je me souviens d'une phrase extraordinaire de l'univers de Warhammer que j'aime beaucoup citer à ce sujet, c'est l'équipement standard de la petite fille. Vous vous souvenez de cette phrase dans le jeu de rôle Warhammer où ils disent en gros une petite fille c'est avant tout une robe rose et un poignard. et ça j'avais trouvé ça assez fort. Alors je sais plus si c'est une robe rose, mais c'est ça, t'as l'équipement, genre un bout de pain, une robe et un poignard. Et tout le monde, même la petite fille, a un poignard dans Warhammer. Donc voilà. Jeff, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça?
C'est juste poser une question, Maxime. Vu qu'effectivement c'est toi qui lance le sujet, t'as commencé par dire, donc quand t'as commencé à maîtriser Sens, je voudrais savoir, est-ce que t'as maîtrisé d'autres choses que Sens?
Ouais, Warhammer 40 000. Dark Heresy, ouais.
Dark Heresy, Rogue Trader ou Deathwatch? Dark Heresy.
Dark Heresy.
D'accord. Oula. Donc, la question que je me pose, est-ce que tu sentais déjà que t'avais ce souci-là? Là, je répète, le souci pour les auditeurs, le fait d'interpréter une femme.
Il n'y a pas de femme dans l'univers de Warhammer 40 000.
L'inquisiteur de mes PJ, c'était une femme.
Ah, d'accord.
Ce qui m'intéresse, c'est justement, c'était quoi le. Est-ce qu'il y avait.
J'avais pas de souci à le faire, mais c'était une époque où on se posait pas trop de questions, donc en fait, j'en ai pas parlé avec mes joueurs à l'époque.
D'accord.
Et je pense qu'on était vraiment dans une optique. Alors, je veux pas le dire. On était dans une optique ludiste à l'époque. C'était Dark Heresy. Donc en fait, on s'en foutait un petit peu globalement de. La cohérence qui était cool, c'était ce qui se passait, c'était...
qui avait le plus de pecs à la fin du
jeu. Voilà, vous avez tous le même, mais c'était qui avait pété le plus de démons, qui avait... voilà, c'était... Donc en fait, la crédibilité, le fait que... l'inquisitrice, je la jouais normalement, hein, c'était une grosse bourrine, elle pétait des gueules et ça leur allait. Mais c'est vraiment dans les jeux comme Sens, où l'interprétation est au cœur de la partie, qu'on a commencé à se poser la question.
Ouais, donc, d'accord. En gros, ton inquisitrice a été complètement asexuée, quoi, si je comprends bien.
Oui, voilà, dans cet univers-là, t'es pas là pour faire du sesque, à part quand il y a des démons qui viennent t'embêter.
Avec les armures qu'ils ont, je pense que t'y arrives pas beaucoup, hein.
Non, mais ils sont tous clonés en plus. J'ai l'impression que c'est à partir du moment où, dans ton exemple, un homme joue une femme, que justement ça pose un problème quand il peut y avoir tentation de romance.
Je pense que quand même le fait que ce soit Sens particulièrement qui est un jeu, et pour ça qu'elle est très bien ta question Jeff, parce qu'elle permet aussi de réaliser que cette question de la crédibilité et de on se la pose dans un certain type de jeu. Et il me semble que c'est cette question-là, on se la pose surtout dans les jeux qui encouragent des propositions créatives de type simulationniste ou de type non, t'es pas d'accord avec ça, Vincent? Alors avale ta frite rapidement
J'avale. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non. Dans tous les univers, t'as une question de crédibilité. Si tu joues,
des Mormons, par exemple,
et que tu commences à mettre des Pokémon, tu vas avoir un décrochage autour de ta table. C'est pas crédible par rapport à ce qu'on
alors, alors je voudrais juste, est-ce qu'on est clair sur la différence entre crédibilité et cohérence?
Alors voilà, c'est ça. Ouais, non, je crois pas. Alors moi, j'aimerais bien juste structurer un peu ce podcast. Première question qu'on va se poser, c'est la question de Maxime, c'est-à-dire la question de la crédibilité. On va faire simple, hein. Le de gros barbu qui genrée. Joue un personnage. Non, même pas. Pas forcément. Tu vois, le vieux qui joue un jeune, le jeune qui joue un vieux.
Forcément. L'interprétation physique.
Voilà, exactement. Ça va être le premier point. Le deuxième point qu'on abordera, ce sera la distinction peut-être entre crédibilité, cohérence et
réalisme.
C'est-à-dire la question que soulevait, à mon avis, Vincent tout de suite, ouais. Et la première question que soulevait Jeff au départ du podcast. Donc ça va être notre deuxième point. Mais en premier point, on va d'abord traiter...
Non, la cohérence mentale,
moi,
je pense qu'il veut faire.
J'avais d'autres crédibilités. Donc
oui, mais on la traitera au moment des propriétés.
D'accord. Et j'en ai une autre qui m'est venue entre temps pendant une discussion. C'était la crédibilité, c'est-à-dire est-ce qu'en tant que lecteur du jeu, on croit à l'auteur du jeu? Pas dans ce qu'il nous explique, mais par exemple, quelqu'un qui va faire un jeu historique, est-ce qu'on va lui prêter crédibilité sur les propos historiques qu'il tient ?
D'accord, ok. Ouais, c'est-à-dire l'autorité, finalement. C'est ce qu'on appellerait l'autorité au sens de l'autorité d'un professeur.
Parce qu'au final, dans le jeu de rôle, on va très souvent aborder plein d'univers, des univers japonisants, parce que je pense beaucoup à ça, parce qu'il y a beaucoup de traits qui sont tirés autour de ce truc-là, qui sont parfois très, très galvaudés. Mais ça peut être sur plein d'autres éléments, les mille et une nuits, enfin tous ces éléments-là où on a une vision complètement...
Le médiéval même, tout bêtement.
Ouais, même le médiéval qui est complètement biaisé par notre connaissance, par les films qu'on voit, par que sais-je, et qui est très loin parfois de la vérité historique.
Ouais, c'est la crédibilité
et
historique.
Quand on se pose comme jeu historique, cette crédibilité-là, pour moi, elle devient...
J'ai l'impression que là, on est en fait dans un type de crédibilité d'univers particulier, tu vois, mais qu'au final, ça recoupe un petit peu quand même cette histoire de crédibilité. Alors commençons par le gros barbu, mais on en parlera, on va essayer de tout traiter. Ça va être difficile, hein, je vous le cache pas, ça va être peut-être un peu brouillon,
Désolé, mais je voulais juste faire je pense que ce serait quand même plus clair de commencer tout de suite par faire un point entre réalisme, cohérence et crédibilité.
Eh bien, on commence par ça, si tu veux.
Parce que ça me paraît quand même important, parce que sinon, on va revenir dessus à chaque fois.
Eh bien, ça marche. Eh bien, on commence par ça, alors. Premier point, crédibilité, cohérence, réalisme. Maxime, à ce sujet...
Après, voilà, si vous avez des choses à rajouter. Moi, je pense que déjà, le réalisme, c'est une chimère, on ne pourra pas l'atteindre. Parce que réalisme, c'est qu'il copie la réalité. Alors, si tu veux jouer à un jeu de rôle réaliste, tu joues à un jeu de rôle qui copie très clairement la réalité. Donc, tu vas jouer à un jeu qui est aujourd'hui, maintenant ou hier, enfin, dans un truc que tu as vécu, dans l'univers où les lois de la physique sont telles que nous, on la connaît. Bref, ça va pas être chiant, mais ça va être, il faut que les propos derrière soient intéressants. Mmh. Là où il y a cohérence, c'est lorsqu'un univers déclare des règles de son univers. Exemple, dans mon univers, il y a des dragons. Si je l'ai dit au début dans mon univers, je vais être cohérent lorsqu'on rencontrera des dragons. Si je dis depuis le début de mon univers, il existe des gens qui peuvent voler, bah alors c'est pas réaliste, parce que dans notre univers, personne ne peut voler par ses propres moyens, sans avion et compagnie, oui. Mais ce sera cohérent. Et c'est ça qu'on reproche, c'est ça que moi je reproche à un jeu, je pardonne évidemment le non-réalisme, je pardonne pas l'incohérence.
Donc d'un point de vue global, pour toi, cohérence et crédibilité dans ce contexte-là, ça a la même signification, opposée au réalisme.
Crédibilité, ça va être à partir du moment où...
Un univers cohérent est crédible dans le sens où tu l'entends.
Un univers cohérent est nécessairement crédible pour moi.
D'accord, ouais. Ok, très bien. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Moi, je partage parfaitement cette définition. Il y a juste un petit bémol que j'aurais par rapport à ce que tu dis, Max. Mmh. C'est que pour moi, la cohérence, elle ne naît pas forcément d'une chose qui est énoncé clairement dans une base ou dans une règle de jeu ou dans un univers. Par exemple, tu peux très bien fixer des cohérences à des canons esthétiques qui sont liés à des films, à des séries ou à ce genre de choses. Par exemple, si on prend l'exemple du jeu de rôle Star Wars, voilà, on sait qu'il faut avoir vu les films Star Wars et que ce qui sera crédible ou ce qui sera cohérent, c'est ce qui rentrerait potentiellement comme scène dans un Star Wars. Pour autant, tu vois, on peut créer un extraterrestre très très farfelu dans l'univers de Star Wars, ça posera pas de problème. Pour autant, il n'apparaît pas, tu vois, dans la base initiale. Le problème de la définition que tu donnais, c'est qu'elle est, c'est une définition de la cohérence au sens fort.
Du coup, à partir du moment, à partir de là, il n'y a pas de juge de la cohérence absolue. On peut pas aller vérifier dans un bouquin. C'est juste la table autour. C'est, voilà. Si les gens sont d'accord, ça, c'est bon.
C'est ça, absolument.
La cohérence aussi que tu, Jeff. Que tu es en train d'expliquer, c'est ce que j'appellerais aussi le canon, tout simplement. Est-ce que c'est le canon, est-ce canon. Que c'est pas...
Il y a différents types de canons. Il y a différents types de canons, donc c'est, mais le canon est-ce que, esthétique. Donc,
40,
le canon, il y a différents types de canons, si tu veux. Ça peut être le, un canon, ça peut être un canon religieux, un canon scénique, un canon,
Là, effectivement, c'est quand tu détailles la chose. Après, ouais. Par rapport à ce que disait Maxime, c'est de, par rapport à l'énoncé de l'univers.
Canon historique.
Est-ce qu'on est dans le canon ou pas de l'univers? C'est ça la cohérence,
oui, c'est ça.
Quelque part.
Et l'univers, en fait, il peut, ce que je voulais juste dire, c'est que dans la définition de Maxime, on avait l'impression que l'univers devait, au préalable, bien définir clairement ce qui rentrait dans son canon. Or, ça, c'est pas sûr. On peut très bien faire un univers dans lequel le canon esthétique, il est flou.
Ça pourrait être la différence entre cohérence et crédibilité. C'est crédible si les gens sont d'accord autour de la table parce que, a priori, ça rentre dans le canon. C'est cohérent si ça respecte ce qui a été écrit.
Oui. C'est-à-dire que
on va pas commencer à s'amuser à créer des définitions.
Non, mais moi, c'est une nuance qui est.
Ouais, elle est pas très utile.
Elle est pas très utile pour ce qu'on veut faire de ce podcast, effectivement. Jeff.
Au point de vue de la crédibilité, je reviendrai aussi. Moi, c'est plutôt sur l'interprétation, quelque part. Ouais, je sais pas si vous allez me suivre. Mais
alors là, on rentre à mon avis. Oui.
Je vais peut-être trop vite. Hein.
Non, je voulais juste faire cette digression. Je voulais juste en parler avant pour poser les choses clairement. Ouais, pour
en
pas
fait,
qu'on
je pense que t'as raison. Juste rapidement pour préciser par rapport à ce que vient de dire Maxime, et je te repasse la parole, Jeff. Allez voir l'article de Frédéric Sintès qui s'appelle Le réalisme est une chimère, qui traite de ces questions, dans lequel en gros Fred explique que ce que vient de dire finalement Maxime, que le réalisme, on ne peut pas. Oui, absolument. C'est le propos de son article, en fait, ce que t'as
ici. Ah bah,
de faire la différence entre justement la crédibilité et le réalisme. Ça, par exemple, cette distinction-là, elle permet d'éviter. Je suis désolé. Elle permet d'éviter en fait ces fameuses discussions qu'on a autour d'une table de jeu de rôle, des discussions qui portent finalement sur la physique de notre univers à nous et pas du tout sur. Mais finalement, on s'en fout que tu aies réussi ton. Enfin, que la physique de notre univers à nous joueurs permette que tu sautes de cet immeuble-là jusqu'à celui-là. Tout ce qui compte, c'est. Est-ce que dans le jeu, c'est la classe? Est-ce que dans le jeu, c'est crédible? Est-ce que dans le jeu, ça le fait? Est-ce que ça, c'est si c'est cohérent, ça
est-ce
passe?
Est-ce qu'on joue dans un univers qui, a priori, permet ça?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on se disait, devant, en regardant Die Hard, oh, stop, on arrête tout, on regarde que ce qui est réaliste, bah, on se ferait grave chier devant Die Hard parce qu'il n'y aurait pas grand-chose qu'on nous raconterait.
C'est le genre de truc qui m'énerve, tous les gens qui crachent sur le non-réalisme des films, t'en viens, mais putain, c'est pas réaliste, évidemment, ça se passe pas dans notre univers.
Voilà,
c'est tout le temps. Et les gens sont. Enfin,
voilà. Ça, c'est une bonne base, c'est vrai, que de présenter ça avant de commencer. Maintenant, crédibilité que tu voulais aborder, Jeff, c'est la crédibilité de l'interprétation. Et là, on rejoint aussi la thématique d'Adrien au départ, qui est jusqu'où est-ce que le joueur doit bien connaître les qualités, les propriétés de son personnage aussi pour être crédible lorsqu'il le joue. Là, c'est plutôt une crédibilité roleplay.
J'aurais tendance à dire que la crédibilité, c'est avant tout une histoire de personnage. Et je vais pas dire simplement de PJ, mais de PNJ aussi, quelque part. Jeff. Parce que, tout simplement, il y a déjà... La première chose pour moi, c'est par rapport à déjà l'auteur. L'auteur, quand il va faire son jeu, faire son univers, faire certains PNJ majeurs de son histoire et compagnie, déjà, c'est là qu'on peut situer s'il y a une crédibilité par rapport à l'univers, quelque part. Après, deuxièmement, ça va être au niveau de l'interprétation, où effectivement, l'interprétation, elle est crédible ou pas. Est-ce que, je dirais, elle est crédible à partir du moment où on le ressent. C'est-à-dire, tu me disais Star Wars... Je maîtrise une part. Bon, je suis pas maître de Star Wars, mais pour l'exemple, je maîtrise du Star Wars. Je joue à ce moment-là. Je sais pas, un maître Jedi qui va missionner les joueurs. Si les joueurs ressentent quelques instants, par mon interprétation, ils arrivent à visualiser le maître Jedi. Là, je suis crédible. C'est ce que j'aurais tendance à me dire. Mmh. Et pareil au niveau de l'interprétation pour un PJ. Pour ton exemple, le fait effectivement que toi, tu sois amené à jouer un PNJ ou un PJ féminin. Je pense qu'à partir du moment où ton interprétation est bonne, on va dire tes traits vont s'effacer. Et c'est le personnage en face techniquement qu'on est censé voir.
Les joueurs de jeux de rôle ne sont pas tous des acteurs. Et
ça, effectivement,
c'est
tout le monde
n'a
pas fait l'acteur studio, c'est sûr.
C'est de dire que le jeu de rôle a besoin de cette crédibilité-là pour exister, c'est de dire qu'en gros, le jeu de rôle ne pourrait être pratiqué finalement, ou en tout cas bien pratiqué, que par des acteurs. Et moi, ça me pose beaucoup
de problèmes. Il y a des types de jeux de rôle qui... sont avantagés par la démarche de l'actoring. Il y a des types de jeux de rôle où tu n'en as absolument pas besoin.
Maxime.
Oui. J'irai pas jusque-là. C'est-à-dire qu'un jeu où tu as besoin d'être acteur, c'est plus vraiment un jeu de rôle à ce moment-là.
Ouais.
Donc ouais, ça, aussi. Donc c'est cool, donc ça apporte un plus, quoi.
En fait, ça apporte un plus, mais ça apporte aussi un moins. C'est-à-dire que si à la table tout le monde n'est pas égal, quelqu'un qui va jouer très bien effraie les autres joueurs. Moi, j'ai eu ce genre de partie où il y avait un mec qui était à fond pendant un playtest de la, enfin une partie de l'agence à l'Udesco récemment. Un joueur qui était à fond, qui jouait, mais une folie. Je veux dire, les canons des films d'action, il les avait sur le bout des doigts. Enfin, il était à fond. Et à côté de ça, une joueuse un peu novice en jeu de rôle se sentait complètement écrasée parce que, ben, à côté de ça, quelqu'un se lâchait à fond et elle n'était pas capable de. Elle se jugeait.
Attention
vis-à-vis
à ton micro,
ça.
Adrien, rapproche-le un petit
elle
peu.
Elle se jugeait vis-à-vis de ça, elle n'était pas capable de se mettre au même niveau.
Ça, je suis en train de me dire, on a eu la même en convention quand on a fait jouer Sens une fois. Avec un joueur qui était vraiment à fond, qui jouait super bien, et les autres, que ça les mettait presque mal à l'aise de ne pas réussir à bien jouer, de ne pas réussir à avoir vraiment le ton de voix, les mimiques et tout du personnage. Il y en a, on voyait que ça allait déstabiliser de ne pas y arriver, alors que lui, il était vraiment, quand il était en stress, il tremblait vraiment, il avait limite les gouttes de sueur et tout.
Il y a des gens à qui ça fait ce genre d'expression extrême corporelle fait peur, effectivement, et donc que ça peut sortir. On arrive aux limites un peu de la crédibilité à laquelle la crédibilité d'interprétation.
Ça me fait penser à Anaïs de Caribde qui m'a raconté qu'elle, avant de faire du jeu de rôle, elle avait beaucoup fait de théâtre d'impro. Elle a fait genre 5-6 ans.
Toi aussi, il me semble, Adrien, t'en as fait
plein. J'en ai fait un petit peu, j'en ai fait une année.
D'accord.
Mais c'était trop peu pour que ça joue. Et elle, ce qui l'a beaucoup bloqué au début dans les parties de jeu de rôle, c'est qu'elle se sentait jugée par les autres joueurs. Ouais. Et qu'elle disait quelque chose, et que la tension à la table de jeu étant un petit peu volage, elle sentait souvent qu'on la jugeait négativement sur ce qu'elle disait, parce que les gens n'étaient pas forcément toujours concentrés sur ce qu'elle disait. Tandis que dans le théâtre d'impro ou théâtre classique, quand tu montes sur scène, t'es sur scène, les gens te regardent, et puis t'es dans ce moment où t'oublies, t'es ton personnage. Et que ça, c'est une des distinctions aussi du jeu d'acteur et du jeu de rôle.
Moi, pour moi, rapidement, et puis je te repasse la parole. Toujours sur ce sujet-là, Jeff ? Eh ben, dans ce cas-là, reprends la parole. Jeff.
Effectivement, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit, on peut dire que je prêche véritablement pour aller sur un truc un peu extrême, mais par rapport au fait d'interpréter un personnage de cette façon-là, je suis d'accord avec vous, bien entendu. C'est vrai que ça peut effrayer quelqu'un qui est vraiment dans son personnage et qui a réussi justement à faire disparaître ses traits, façon comme je le disais à l'instant. Mais sans rentrer dans cet extrême-là, je pense que on peut y arriver. Je m'explique. Il y a encore des petites astuces et compagnie. Et c'est là, je pense que la crédibilité, elle est là aussi quelque part. C'est de bien réfléchir à son interprétation, surtout quand on est en tant que maître de jeu. Je disais encore en référence à ce que tu disais au début. Effectivement, je vais devoir à un moment jouer un personnage féminin. Je pense que les auditeurs entendent ma voix. C'est sûr que je vais pas les déclamer de la poésie.
Et ils ont pas ton physique.
Bon, ça sera. toujours est-il, oui, c'est en tant que maître de jeu un peu expérimenté, enfin je l'espère. C'est vrai que c'est un truc que je me pose comme question. Est-ce que je vais réussir à bien l'interpréter?
Moi, je crois qu'il y a un truc qui est essentiel pour ça. Si on a un conseil, moi, si j'avais un conseil personnellement à donner pour la crédibilité, quand on ne sait pas jouer, ne jouez pas. C'est-à-dire quand vous ne savez pas jouer la comédie, ne jouez pas. Jouez normalement, parce que quand vous essayez de jouer, vous surjouez en fait la plupart du temps, et ça peut vraiment nuire pour le coup à l'immersion. Donc moi je pense que par exemple si on prend ton jeu d'acteur, Jeff, à toi, quand on joue avec toi, tu ne joues pas ton personnage au sens d'un acteur, tu interprètes ce qu'il ferait dans des situations, mais tu ne prends pas des voix si différentes que ça. Tu joues normalement, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors que moi j'ai vu des joueurs qui surjouaient en fait. Et ça, c'est gênant. Moi, ce que je pense qui gêne plus, c'est les gens qui surjouent, en fait.
Ça dépend. Moi, j'ai tendance à énormément, en tant que MJ, changer de voix pour tout le temps. Et ça gêne pas pour autant. C'est peut-être du surjouage, mais mes PJ, ils adorent ça. Tout de suite, rien qu'avec la voix et le truc du personnage, ils arrivent
après,
à capter.
Je pense que les contraintes de jeu pour un meneur de jeu et pour un joueur ne sont pas les mêmes.
Enfin,
le conseil d'interprétation que je donnais là, il est valable pour un joueur. Je parlais pas pour un meneur de jeu.
Et là, encore une fois,
lui peut avoir intérêt à faire varier sa voix, ne serait-ce que pour indiquer
l'état
implicitement et tacitement à ses joueurs qui parlent dans le contenu fictionnel malléable.
C'est effectivement différent. Ça c'est pour le côté surjoué, si je puis dire. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure au niveau de la crédibilité sur l'interprétation, c'est aussi surtout ne pas tomber dans les clichés.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire.
Ne pas vraiment tomber dans les clichés.
C'est ça. Tu
si
joues.
Je vais jouer une femme. Excusez-moi, ça va peut-être faire hurler ce que je vais dire, mais jouer une femme tout de suite, jouer entre guillemets une fille de petite vertu.
Voilà.
Souvent, c'est ce qui se passe. Ou alors la célèbre macho woman with big gun, comme on dit.
Quelle horreur.
Bah oui, et oui, bah, mais tu,
par exemple,
tu
c'est des questions qu'il faut se poser avant.
Mais c'est, je te jure que ça, ah, tu oui. vois, un personnage, on prend par exemple.
Jouer Solipsis, ça fait du bien pour ça.
Je vous jure que vous prenez un personnage, par exemple, moi je me souviens d'avoir fait plusieurs parties de zombie cinéma avec des cartes où des personnages sont tirés au hasard. Systématiquement, souvent il y a des trucs autour du sexe, genre il y a un homosexuel, un truc comme ça. Les gens vont être dans la caricature. En même temps, le jeu propose aussi de jouer une caricature de film de zombie, donc bon. Mais voilà, il y a ce risque-là. Et moi je pense qu'on ne joue jamais aussi bien un personnage que lorsqu'on ne cherche pas à le jouer justement et qu'on cherche juste à imaginer ce que lui il ferait dans telle situation sans faire varier pour autant nos voix. Mais bon, ça c'est un peu un conseil à, enfin voilà, ouais, à deux centimes.
Ce que tu dis, c'est déjà un peu le jouer en fait. Jouez-le oui. comme vous le joueriez sans trop poser de questions. C'est enfin.
Non, c'était.
Mais je vois la différence. Ne te dis pas.
Gros,
je vais.
Ne vous forcez pas à le jouer.
Voilà, voilà, c'est
pour
ça. Ouais,
pour être crédible.
C'est ça, c'est ça.
Mettez-vous à sa place et parlez normalement en fonction, en imaginant son background, en imaginant que vous êtes lui.
Et ça.
Mais vous prenez pas la tête sur les gestes, la voix, les trucs, les contacts avec les autres.
Oubliez l'intonation. Pas la peine. Décrivez ses actions. Voilà.
Moi, ce qui est bizarre, c'est que dans toute votre discussion là sur interpréter une femme, en fait, c'est une question que je m'étais jamais posée. C'est-à-dire pour moi, ça se posait pas.
Mais c'est pour ça que tu es un bon joueur.
Adrien. Je sais pas, ça me.
Ouais. Voilà,
je me suis jamais vraiment posé la question de jouer la voix, par exemple, et donc me dire ma voix va pas passer sur un personnage de sexe.
Là, c'est là que je fais une petite transition. Moi non plus, je me la suis jamais posée en ces termes-là pour la crédibilité d'un personnage. Par contre, je me la suis posée pour la crédibilité de mon média, du jeu de rôle. Le fait que quand tu arrives dans une convention de jeu de rôle, tu puisses voir un barbu en train de jouer une petite fille, tu vois, ça peut être choquant. Ça peut paraître. Regarde, si vous regardez toutes les émissions qui ont été faites dans les années 90 sur le jeu de rôle, les médias généralistes s'amusaient systématiquement à montrer des films, des scènes de jeu de rôle où les gens, justement, étaient dans l'excès. Et je pense que pour la crédibilité d'un média, le fait de voir des gens qui s'excitent autour d'une table à l'image, quand on parle, là je parle des médias généralistes, eh bien ça peut nuire à la crédibilité du média. Pour autant, est-ce qu'il faut s'interdire de jouer une petite fille quand on est... je pensais à Thomas Poussou, désolé parce que Thomas Poussou... parce qu'en fait, Thomas Poussou en plus adore jouer des rôles de fillette. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc du coup,
il le fait
très souvent, et il le fait pas mal. Et donc très souvent, quand on joue avec Tom, on est amené à voir le voir incarner une petite fille. Donc. Mais ça ne... c'est
une autre armoire à glace.
Ça peut nuire aux médias quand on est extérieur à la partie, mais quand on est dans la partie, bah, il faut savoir oublier le physique des gens et juste entendre les personnages qui sont derrière. Et la crédibilité, c'est un point que je voulais développer, en fait, elle est dans l'œil des gens qui regardent. Il y a une discussion que j'ai eue avec Frédéric Sintès à Poitiers qui est un sujet très intéressant. Il me disait, finalement, si un rôliste se mettait à raconter ce qui se passe dans Princesse Mononoké, qu'il décrivait des grenouilles en train de parler dans un étang, dans la plupart des cas, on trouverait ça ridicule. Mais si on fait un peu un effort et qu'on essaye d'imaginer que ces grenouilles-là, elles sont un peu comme dans un studio Ghibli en train de discuter et tout, et si en fait, dans sa tête, esthétiquement, on fait rentrer ces choses qui peuvent nous paraître de prime abord ridicules dans un canon esthétique cohérent avec l'univers, eh bien en fait, on peut rendre crédible quelque chose qui paraissait ridicule. Sous-entendu, la crédibilité n'est pas de la responsabilité de la personne qui énonce la proposition, pas toujours en tout cas, mais elle est aussi beaucoup dans la personne qui reçoit cette... Il y a une forme de principe de charité, en fait, qu'on pourrait exercer à l'égard des propositions qui sont faites autour des tables. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire, attention à ne pas inverser la charge de la preuve en matière de crédibilité. C'est pas forcément à vous d'être crédible.
Après, voilà, c'est ça.
C'est aussi aux gens de faire
la différence entre
un effort.
La crédibilité physique et la crédibilité dans les propos. C'était ça le truc. Oui. Parce que tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui n'a absolument pas le physique, mais si tu fais un effort de passer au-delà de ça, juste tu te concentres sur ce qu'il dit, et de t'imaginer la situation, et ben là, d'un coup, c'est, en fait, tant que les propositions qu'il émet sont crédibles vis-à-vis de ce qu'il a dit de son personnage,
c'est ça.
Ça passe, il y a pas de souci. Et c'est ça que je suis en train de m'en rendre compte, parce que moi, quand je joue avec mes joueurs, j'avoue que ils m'ont décrit leur personnage, mais je les imagine pas comme ça. Pour moi, les personnages en question, ils ont pas vraiment de tête. Ils ont une tête à moitié entre celle de mes joueurs et celle que peut-être qu'ils s'imaginent avoir.
De la même manière que Gaston Lagaffe, quand vous avez tous découvert la BD Gaston Lagaffe, il avait pas la voix que vous avez entendue la première fois que vous avez vu un dessin animé Gaston Lagaffe. Et j'imagine que ça vous a choqué. Parce qu'en fait, chacun s'imaginait la voix de Gaston à sa manière. Enfin, c'est un exemple à la con, mais
Encore une question à Maxime. Un petit coup de psychanalyse holistique, façon de parler.
Je vais en faire une autre après, vas-y, continue.
Analysez-moi, je suis
on va tous s'analyser, c'est bien. Allongez-vous, les gars.
En plus, ce qui est génial, c'est que Maxime est tout seul de son côté de la table, on est tous les quatre.
Ça fait bizarre parce que du coup, il y a tout le temps quelqu'un qui me regarde, ça fait très bizarre.
Maxime.
Moi, votre mère.
Courage. Maxime, allonge-toi, raconte-moi tout. en tant que maître de jeu, tu n'arrives pas. Enfin, tu visualises pas vraiment le visage de tes joueurs, enfin de tes personnages.
Des PJ.
Personnages.
Donc, la question est la suivante. Tous les combien de temps tu les fais se décrire à peu près? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, tu vois, enfin, encore une fois, hein, chacun sa sauce, comme dirait l'autre. Chacun maîtrise comme il l'entend. Je sais que moi, personnellement, à chaque début de partie, chaque début de séance, pardon, les joueurs ont le droit à un tour de description. Et c'est un truc que j'insiste parce que justement je veux pouvoir m'imaginer à quoi il ressemble.
Ça, à mon avis, ça influe.
Bah, c'est une super,
c'est une super idée.
Ouais, c'est une super idée. Je pense que je vais la mettre en application dans ma prochaine partie.
C'est vrai que j'ai eu pas mal de joueurs qui m'ont dit oh, c'est bon, tu nous gonfles. La première séance qu'on se décrit, c'est normal. C'est la première fois qu'on se voit, machin, que le groupe est réuni. Donc, ok, on comprend. Mais à chaque séance, tu nous fais chier avec ça. Et je te jure, il y a des joueurs qui m'ont fait le coup. Mais à vrai dire, non, ce qui est important, c'est que. Quoi, moi, je pense que j'arrête pas de défendre ce point de vue-là. Je vois le jeu de rôle par moment. Je scénarise ça, moi, de mon côté, comme une série télé.
Ouais.
Je pense que d'épisode en épisode, on n'a pas la même tenue. Enfin, les personnages n'ont pas la même tenue. N'ont peut-être pas le. Qu'on appelle ça.
Quoi
le...
Tu veux dire que Seyard, parfois, il se change. Il a pas son jean et son haut rouge.
Mais tu t'as pas remarqué à l'épisode 28 de la saison 12
dans le film d'animation, il a pas cette.
Ah oui, très. Là, t'es pas crédible. Maxime.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a toujours ce côté description de personnage, on va dire le visuel. Mais à chaque fois, j'insiste aussi avec mes joueurs en disant, vous décrivez le visuel de votre personnage, certes, mais vous pouvez aussi décrire ce qu'il dégage sur l'instant. Qu'est-ce qu'on peut ressentir de sa psychologie à ce moment donné?
Donc là, on est toujours en train de parler de la crédibilité de l'interprétation.
Et ça renforce, non, je pense, quelque part.
D'accord.
Quand tu veux le micro, Vincent, tu le dis, hein, parce que sinon tu vas passer.
J'avais un petit point psychanalyse aussi à faire sur la peur, enfin le fait de jouer un personnage, par exemple, sexe féminin ou une fillette ou un petit garçon et de pas se sentir à l'aise. Je me demande si c'est pas lié aux trois peurs du rôliste qu'il faut surpasser.
Complètement.
La peur du ridicule, la peur de passer pour fou.
Et l'obscénité. Oui.
Et que.
Truc du théâtre d'improvisation, ouais, c'est ça.
Et c'est le fait de, en gros, jouer un personnage, par exemple, de sexe féminin, t'aurais peur d'être ridicule dans ton interprétation. Et c'est ça qui fait que t'es mal à l'aise et que du coup, soit tu ne vas le surjouer, soit tu mets à... Enfin, voilà.
Encore une fois, hein, si tu te dis, si tu fais ton personnage féminin en gardant ta voix normale, ça hein. passe nickel. Hein. Donc, psychanalyse, t'avais une question, Adrien, à poser à Maxime?
Non, mais je réfléchis en même temps, mais.
Non, c'est ce que ça m'évoquait.
Le problème, vient peut-être de moi, du fait que j'ai pas assez de je suis pas assez, comment vous avez, c'était quoi le mot déjà?
La peur.
Non, j'ai plus le mot. Non, mais que quand quelqu'un à côté de moi, pour citer Kel Morgan, joue à un personnage masculin, pendant toute la partie, je l'appelle elle, quoi, j'y arrive pas.
Ouais,
j'y arrive pas. Ouais, et non, la même chose, hein, quand un copain joue un personnage féminin, je dis il toute la partie.
Ouais, moi,
j'y arrive pas. Quand il y a quelqu'un à côté de moi qui me rappelle en permanence qu'en fait c'est un garçon, j'arrive pas à me faire au fait que. Alors, dans des univers en plus, comme dans Star Wars par exemple, où les noms sont à double. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'appelle Karma, tu fais ok, bah ça peut être un garçon ou une fille. Et j'y arrive pas. Hein. Ça peut être même un très bon acteur à côté de moi. Moi, pendant toute la partie, je vais imaginer que c'est une nana et. Et ça change rien en fait, parce que j'avoue, dans l'idée, moi je m'en fiche, ça change rien. Mais c'est chiant quand t'as des dialogues et que chaque fois la personne doit dire il.
Deux petits éléments pour aller dans le sens de Jeff, et puis je pense qu'on pourra comme ça passer à notre prochain chapitre dans ce podcast sur la crédibilité. Par rapport à la crédibilité et à ton tour de description, il y a une règle qui fonctionne pas mal aussi, je suis désolé, je vais faire de l'autopromo dans le sens néant, c'est la règle de la description des ombres.
Ça marche très bien. Ouais.
Ça marche très bien. C'est exactement dans le même style que ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une règle qui oblige pour se ressourcer de certains points, en l'occurrence les points de rayonnement qui permettent de faire l'équivalent de la magie, hein, je vais très très vite. En fait, t'es obligé de décrire tes rêves. C'est-à-dire quand tu vas te coucher, tu décris ce à quoi tu rêves, sachant que ça peut être un mot, trois mots, tu vois, des vagues bleues dans l'océan, etc. Et juste ça, le fait de décrire son père, pas forcément son personnage, mais ses pensées intimes sous l'aspect de la couleur ou d'un même d'une espèce de métaphore ou d'un truc comme ça, ça donne une profondeur au personnage et une crédibilité pour le coup au personnage qui peut être assez intéressante. Donc ça c'était. Et puis une autre règle que j'avais envie de citer, et je te repasse la parole Jeff, c'est la règle de monostatos qu'on cite très souvent pour la crédibilité des personnages, mais qui me semble essentielle. C'est la règle qui dit ne ridiculisez pas à aucun moment, parce que c'est très très fait, et c'est vrai que c'est très très fait au cours des parties de jeux de rôle en général, de ridiculiser son propre personnage ou les personnages des autres, que ce soit les ennemis ou ses propres personnages. Par exemple, je ne compte plus le nombre de fois où, par exemple, dans un scénar de Cthulhu, alors qu'on est en train de jouer la folie, une folie ridicule, eh ben on va justement ridiculiser le personnage en lui faisant faire un truc obscène ou débile. En fait, si on applique à ce moment-là la règle de monostatos, qui est de ne jamais ridiculiser son personnage ni les personnages des autres, c'est-à-dire si vous êtes plus fort qu'un autre, ne le ridiculisez pas, eh bien ça ajoute en fait à la partie une crédibilité en supplémentaire. Voilà. Et maintenant, voilà deux petites règles comme ça tirées de jeu qui permettaient d'augmenter la crédibilité de ce côté-là. Jeff, tu voulais prendre la parole. Vincent, Jeff, puis Vincent, peut-être.
Attendez, juste vite fait, vu que tu faisais l'auto-promo, juste un truc là-dessus. Ouais. C'est vrai que moi, sur Vigilance, notamment, un truc que je suis en train de préparer, ce que je fais aussi pour amplifier le côté description que je disais tout à l'heure, ma petite technique, c'est aussi de partir sur ce que j'appelle des conclusions. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en chaque fin de séance, de faire en sorte que ce soit pas simplement une description de personnage, mais que ce soit carrément le joueur qui mette en scène son personnage, en disant bah voilà, fin de l'épisode, mon personnage est en train de se balader sur la plage en train de réfléchir.
C'est vraiment le genre de truc qu'on retrouve énormément dans les jeux anarchiques qu'on présente dans la série, que ce soit dans les jeux justement comme Dogs in the Vineyard par exemple, on trouve ce genre de séquences, ce qu'on appelle souvent aussi dans les jeux des séquences de ressourcement où les personnages doivent décrire des scènes. Je crois qu'il y a ça dans Bliss Stage, je sais plus. Il y a beaucoup de jeux qui nous viennent de la Forge qui trip autour de ça. Vincent.
Ça n'avait rien à voir.
Je t'en prie, justement.
Je rebondissais sur ce que tu disais, parce que je pensais à ça. Par rapport à la folie, par exemple, dans l'appel de Cthulhu, c'est la crédibilité des choses qui sont vachement dures à jouer, en fait.
Ouais,
quand on te demande de jouer la folie et qu'on te dit maintenant tu es schizophrène, quand tu sais pas vraiment ce que c'est qu'un schizophrène, quand tu penses qu'un fou c'est un mec qui a un entonnoir sur la tête,
c'est clair.
Ça peut devenir vraiment compliqué. Ouais. Jouer une petite fille, c'est pas si facile que ça.
Non. Non, carrément. Parce que quelles sont ses réactions dans certaines situations, en fait, c'est vrai.
Quand perdu sous la pluie, des fois, ça fait bizarre. Hein. Entre celui qui se souvient bien de comment on réagit quand on est enfant et celui qui s'en souvient pas très bien et qui reste un adulte au milieu, ça, il y a toujours des trucs bizarres dans la partie.
Donc là, on en revient peut-être à ce que tu signalais au départ, Adrien. C'est-à-dire la psychologie, finalement, la crédibilité psychologique. Est-ce que je suis capable de jouer à un scientifique rigoureux si moi-même je suis chaotique et bordélique?
Ça. Et même au-delà de ça, enfin, l'ultime extrême, moi, que j'ai eu à jouer, c'était dans, c'est pas Nobilis, Néphilim. Dans Néphilim, jouer un Néphilim, moi, ça m'a semblé complètement impossible. Moi, j'ai fait une demi-partie, j'ai fait ce jeu, je suis désolé, je me sens pas du tout capable de jouer un être qui n'est pas humain, qui n'a aucun objectif qu'un humain partage. Et donc, je me sentais incapable de le jouer parce que non crédible du tout dans ce rôle-là.
C'est excellent, parce que j'ai eu exactement le même problème avec Néphilim. Et moi, c'était pire que ça, c'est-à-dire que je trouvais que c'était des personnages qui étaient trop sales. Je pouvais pas jouer ça c'était me...
Trop sale, non, moi, c'était même pas ça, c'est que je voyais pas d'objectif. Je voyais pas de quoi ils avaient peur, qu'est-ce qui les motive dans leur vie.
J'étais
incapable de me projeter dans ce personnage, en fait.
Voilà. Alors, on va peut-être passer à la suite. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette crédibilité d'actoring, j'ai envie de dire, la crédibilité du jeu d'acteur, un peu qu'est-ce qu'on peut faire, quel genre de règles on peut mettre dans ces jeux pour augmenter la crédibilité.
En tout cas, je me demandais
enlarge your credibility.
Voilà. Je me demandais juste en gros si les jeux qui encouragent des narrations partagées pour le coup aidaient pas à cela, enfin pour l'interprétation des personnages qu'on disait tout à l'heure. Parce que de ce que j'en ai vu, c'est des mécaniques qui ressortent souvent, le fait de pouvoir décrire son personnage. Quand on prend un peu plus de pouvoir sur l'univers entre guillemets, on peut commencer à plier un peu les choses et à créer des scènes dans lesquelles on augmente la crédibilité parce qu'on met en place des trucs de notre personnage. Je me rends compte typiquement dans ce sens, je veux pas faire de spoil, donc je dirais rien de plus, mais on a beau jouer des personnages qui sont pas très humains, le fait qu'il y ait des règles qui fassent qu'on puisse modifier l'univers pour montrer des choses vis-à-vis de son personnage, ça augmente énormément la crédibilité à la fin. Ça fait qu'on on les imagine presque mieux que des humains.
Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que Perdu sous la pluie, c'est un peu le contre-exemple. Si tu as une table de joueurs qui ne savent pas jouer des enfants ou qui les jouent de manière très très caricaturale, tu vas avoir des parties vraiment toutes pourries.
Ah ouais, ça.
J'en ai pas encore eu, donc.
Mais t'as joué avec qui?
Avec des inconnus aussi, du top.
Alors, un point essentiel, c'est que je pense que, enfin, personnellement, je vais voir où cette réflexion va nous mener, si vous avez à réagir là-dessus. Je pense que le jeu de rôle est un jeu qui repose totalement sur la crédibilité. Dans la définition que j'essaye d'en donner dans le Maelstrom, j'essaye de dire qu'en gros, le jeu de rôle, ce n'est rien d'autre que des joueurs autour d'une table qui font des propositions et qui valident ces propositions ensemble. Et moi, il me semble que la chose, en fait, l'élément essentiel, c'est pas le réalisme, c'est pas forcément la cohérence, c'est la crédibilité qui va être le principal vecteur de validation des propositions.
Adrien, ouais, t'as l'air de plus. En fait, en amont de ce podcast, on réfléchissait à d'autres sujets, notamment des podcasts garage. Ouais. Et moi, je disais, j'ai des problèmes dans mes prochains projets de jeu, mais j'ai pas les questions qui vont avec. Bah là, en fait, ça, c'est exactement ce que j'ai sur un de mes jeux. C'est la question de comment permettre à mes joueurs d'être crédibles dans le rôle que je veux qu'ils jouent. Dans Éveil, les joueurs vont jouer des street artistes, des breakdancers, des DJ, des... Voilà. Comment un joueur qui est complètement loin de
ces questions-là, voilà. Victor Hugo écrivant sur la misère, c'est ridicule. Et voilà, comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le street dance, le
comment
tag,
tu fais jouer ça voilà. sans qu'il ait besoin d'être spécialiste, parce que moi-même je suis pas spécialiste, parce que c'est un milieu qui est trop vaste et que être spécialiste, ben c'est un sacré boulot. Comment je fais pour que mes joueurs soient crédibles là-dedans? Et ça, c'est mon gros questionnement en ce moment. Et au final, je pense que c'est le point bloquant de ce jeu, et du coup, c'est peut-être le point bloquant de beaucoup de jeux au final.
D'accord. Ouais.
Ouais. Comment jouer ce que tu ne connais pas? La folie dans l'appel de
Cthulhu. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et la folie, c'est un très bon exemple parce que c'est aussi quelque chose qui met mal à l'aise. C'est pas qu'un défaut de connaissance, c'est aussi un sujet qui peut faire peur. Et donc, souvent, va effectivement te pousser dans le ridicule ou dans le.
Ou dans l'incapacité de le faire.
On rit pour évacuer la tension, en fait.
Et souvent, le mieux d'ailleurs dans ces situations-là, c'est de ne plus être en jeu, mais d'être en description factuelle.
Ce que je voulais dire, c'est, alors, je crois que l'erreur, elle est de considérer qu'il y a une crédibilité seule et indivisible. Je pense que chaque jeu a sa propre vision de ce que doit être sa crédibilité.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est de trouver les règles qui permettront de l'encourager.
Voilà, c'est ça. Et les règles, et pas uniquement les règles. Les sources d'inspiration, références.
Oui.
Dire à ces joueurs, OK, tu veux jouer tel personnage? Vois ce film, lis ce livre, renseigne-toi sur tel artiste, va voir, etc. Ouais. Pousser finalement à la curiosité, le joueur, de façon à ce qu'il acquiert les connaissances suffisante, un minima, on lui demande pas d'être spécialiste, mais un minima pour pouvoir le jouer. Et là, on arrive, excellente transition, à la cohérence dont parlait Vincent au tout début de ce podcast, qui est à mon avis la cohérence de l'univers et tout ce qui est ambiance, la crédibilité. Pourquoi c'est important d'avoir des univers qui soient bien détaillés? Moi, je pense que c'est pour ça. Parce que ça permet pour ces joueurs-là d'aller rechercher dans le background des éléments qui les confortent dans leur personnage qui va leur donner des éléments historiques, des points sur lesquels s'appuyer pour jouer leur perso.
Je ne t'abandonnerai pas.
Je ne t'abandonnerai pas. Tu fais référence à l'Emily Carpus, les trois niveaux d'Emily Carpus.
C'est ça, ouais.
C'est différent. Moi, je suis pas spécialiste.
Vous parlez de quoi là? Parce que
je ne t'abandonnerai pas, c'est en gros dans quand tu vas commencer une partie de jeu de rôle. C'est quoi qu'il se passe, on sera tous ensemble dans la galère et on va essayer de te laisser derrière si t'es pas capable de jouer ça.
Voilà.
Et donc c'est l'idée.
Si tu as
le livre qui va te donner des pistes pour comment jouer ton personnage. Ça va être le MJ qui va t'encourager, qui va être. Et je pense cette phrase, elle s'étend dans un domaine plus vaste pour des jeux qui vont sur des sujets plus graves.
Ouais.
Mais au final, même sur des problématiques plus légères telles que jouer un elfe qui tire une flèche sur un orc. Ben, le contexte du jeu, c'est ça en fait, c'est cette phrase-là.
Et moi, ce que je voudrais dire, et après je passe la parole à Jeff par rapport à ça, c'est que chaque jeu a la charge de trouver chaque auteur, chaque groupe d'auteurs, chaque éditeur a la charge de trouver la cohérence et la crédibilité qu'il veut pour son jeu. Dire faites un film de cette, enfin faites un contenu fictionnel malléable qui pourrait ressembler à tel tel film, c'est déjà donner une orientation et déjà donner un point. Il arrive à 39. Donner un point pour comment dire créer et dire ce que les joueurs vont valider autour de la table, parce que dans le fond c'est ça le point essentiel d'un jeu de rôle, c'est qu'est-ce que les joueurs autour de la table vont valider ou ne pas valider, c'est ça l'essentiel. Jeff et Vincent.
Ouais, juste pour rebondir, ouais, c'est à ça que sert beaucoup, enfin je reviens à ce que je disais, au départ, beaucoup de choses dans le background en fait d'un jeu.
Excellent.
C'est-à-dire, alors moi je parle par expérience, par exemple sur Shaan, quand on commence à décrire la formation des continents ou comment une espèce se nourrit, ouais, si tu veux, ça ne tirera jamais un scénario. Ça va juste servir après à valider ce que sera l'univers et à poser des règles qui vont être acceptées par tout le monde.
C'est ça. Et j'ai envie de dire que le terme fluff qu'on utilise à tort et à travers, en fait, le fluff de quelqu'un n'est pas forcément le fluff de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que quelqu'un va pouvoir considérer comme du fluff, à savoir la manière dont se nourrissent, par exemple, les personnages ailés dans Shaan, dont j'oublie toujours le nom. Les Délions que j'adore, voilà, et dont j'oublie toujours le nom. Eh ben, ça va pas intéresser celui qui joue, une brute épaisse, ou un Marines, mais qui débarque sur en Néocie, mais ça va intéresser le mec qui joue le Délion. Et donc le fluff des Marines pour le Délion sera pour un Marines le fluff du Délion. Enfin, donc il faut faire très attention.
Tu mets derrière le mot fluff
un truc péjoratif. Ah ben moi, pour moi, la manière dont on m'a présenté ce concept, c'était clairement péjoratif.
D'accord, hein. OK. Enfin moi, je connaissais pas ce terme, donc pour moi c'était vraiment le tous les textes d'ambiance qui a priori n'ont pas d'utilité.
Maxime, sur le fluff,
sur le fluff, j'ai jamais rien entendu de négatif dessus. Pour moi, le mot fluff, c'est un mot pour dire c'est ce qu'il y a autour, c'est cool.
Le fluff, moi, ça me fait penser à la fourrure.
Oui, c'est sur fluffy, quoi.
C'est ce qui habille un peu.
D'accord, très bien. Moi, j'en avais entendu de façon péjorative.
Moi, j'en ai. Pour revenir un petit peu rapidement, quand même, sur ce que j'entends, notamment au niveau de Vincent, qui dit la difficulté de jouer quelque chose qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Pareil de ton côté, Romaric, tu disais que l'auteur doit mettre les outils nécessaires.
C'est pas qu'il doit mettre les outils, il doit donner les clés de sa crédibilité. Dire ceci est crédible, ceci ne l'est pas.
J'ai envie de dire quelque part, bon.
Mais ce qui revient au même. Le problème, c'est qu'il peut pas le faire pour chaque proposition. Il va pas dans son livre mettre cette proposition n'est pas valide, celle-là l'est pas. Imaginez, ça ferait une base de n'importe quoi. Donc ce qu'il dit, c'est faites un truc à la comme ça. Il le dit de façon non, t'es pas d'accord, Vincent.
Il le montre,
mais il ne le dit pas. Voilà, c'est ça.
Pour moi, ça sert déjà à faire. Enfin, il faut que l'univers paraisse crédible pour le maître de jeu. Et maître de jeu qui va ensuite le rendre crédible pour. Alors,
sens de crédibilité, je crois.
Si tu prends l'exemple des jeux historiques, par exemple, l'exemple de Tédéum, par exemple, Tédéum pour un massacre qui se passe pendant les guerres de religion. La plupart des joueurs ne vont pas connaître très exactement ce que sont les guerres de religion, et je pense qu'avec une base très légère, tu pourrais faire jouer à ce jeu. Et pourtant, c'est un pavé Tédéum. Mais il faut que le MJ se sente en confiance pour justement qui puisse faire passer la crédibilité de cet univers, alors que tu pourrais jouer sur une base très très simple. Ça sert à ça. Tu penses, enfin, je sais pas, est-ce que c'est pas au MJ de lui y croire et ensuite de faire passer
ça? Et là, je suis sûr que Jeff, tu penses à un jeu qu'on a testé récemment sur la cellule qui est Minis Christi.
Oui, non, il y a de ça, mais enfin, c'est juste, je voulais développer quelque chose, j'en ai pas eu encore le temps, et j'espère que ça apportera quelque chose.
Je t'en prie, Jeff.
J'ai envie de dire simplement, effectivement, jouer ce qu'on ne connaît pas. Je veux vraiment rester là-dessus. Je reste un peu sur le point de l'interprétation, finalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'auteur doit donner les clés, le maître de jeu doit donner de l'inspiration, compagnie, doit faire vivre la chose. Mais il y a une chose, moi, et pour le coup, c'est un coup de gueule que j'ai envie de passer, c'est, il faut que les joueurs réfléchissent. Je m'explique. Souvent, c'est au boulot de l'auteur, au boulot du maître de jeu. Mais le joueur, quelque part, faut qu'il réfléchisse à son interprétation. C'est pas dans le sens, il faut qu'il interprète bien ou il interprète pas son personnage. C'est, il faut qu'il réfléchisse, qu'il se connaisse quelque part. Qu'est-ce qu'il est capable de jouer, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de jouer. Encore une fois, faire un distinguo entre ce qu'on a envie de jouer, ce qu'on aime.
Rah, je suis tellement d'accord avec toi.
Et est-ce qu'on a,
il y a des fois, j'aurais dû ne pas jouer un jeu. Je le sais. Vas-y,
Jeff. C'est ça que c'est. Alors, ça va peut-être. Effectivement, c'est un coup de gueule assumé, mais au bout d'un certain temps, et je rebondirai sur le début du podcast sur le fait de la difficulté de jouer une femme quand on est un homme, c'est. Je comprends pas, moi, ce truc-là. Tant pis, je vais passer pour un con ou un fasciste ou je sais pas quoi, mais. Moi, personnellement, ça fait des années que je ne joue pas de femme parce que je sais très bien que je n'en jouerai pas.
Mais t'as raison.
Je ne jouerai pas tel type de personnage parce que je ne sais pas de faire ce genre de choses. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, effectivement, c'est au joueur aussi de se prendre un peu en main. Je ne vais pas dire de réfléchir,
et de dire
se prendre en main, de se connaître, d'apprendre à se connaître vraiment.
Il y a juste un truc que je voulais dire depuis quelques temps, du coup, parce que ça se rejoint exactement à ce que tu dis. C'est une réflexion, Morgane m'en aurait voulu que j'en parle pas, parce que cette réflexion est aussi venue de discussions qu'elle a eues avec un de ses amis, qu'on a pu avoir aussi, qui disait, lui, qui soutenait que quand on joue un personnage, on ne fait que se jouer soi-même. On ne fera que, au final, jouer une version fantasmée de soi-même dans un sens ou dans l'autre, mais on ne pourra jamais. Jamais.
J'ai écrit un article sur le sujet.
On ne pourra jamais être crédible sur en jouant quelque chose qui n'est pas au moins en partie
une partie de soi-même.
Ouais. Donc au final, en effet, se connaître soi-même. Si on apprend à se connaître et à savoir les parties qu'il y a dans nous-mêmes, et ça peut être aussi une technique d'exploration, essayer de jouer quelque chose de nouveau. Mais à la fin, il faut en tirer des leçons. Je pense que t'as totalement raison.
C'est pour ça que dans mon article, je disais qu'on ne doit pas jouer des personnages, on doit finalement jouer des simulacres, c'est-à-dire des projections de soi-même.
C'est ce qu'on fait déjà.
Oui, non, mais c'est sûr.
C'est ce qu'on fait déjà.
Mais au moins,
quand on faisait de l'impro, on avait développé une théorie qui était qu'on avait chacun d'entre nous un personnage refuge. C'est-à-dire que au bout d'un moment. Si l'impro durait suffisamment longtemps, on allait tous retomber dans notre personnage refuge.
C'est exactement ce qu'il disait aussi le gars en question.
Mais
c'est génial.
Et ça, quand Jeff dit je jouerai pas de femme,
Adrien,
c'est parce que il se connaît, il sait qu'il ne jouera pas de femme, mais c'est pas pour autant que les hommes ne peuvent pas jouer de femme. Attention, c'est que si vous vous sentez à l'aise en jouant une femme, pas de problème quoi.
Oui, c'est
juste une question de comment vous le sentez. Et ça, c'est en général, ça vient tout naturellement. Moi, j'ai rarement eu la situation où je me sentais où je me sentais pas à l'aise dans ce personnage-là, à part quand il y a des gros défauts pour moi d'une interprétation.
Le problème, c'est le sexisme. C'est-à-dire, en fait, le fait que des gens disent parce que tu es un homme, tu ne peux pas jouer une femme. Comme si, parce que tu avais une paire de couilles.
Moi, au-delà du sexe, hein, par exemple, j'ai des potes, jouer un personnage séducteur, c'est juste pas possible. Enfin,
ça, typiquement, c'est le genre d'exemple.
C'est aussi des mentalités de personnages.
Ben, c'est juste histoire de désamorcer un peu mon pseudo coup de gueule à deux balles. Ce que je veux dire par là, c'est que
c'est pas
qu'au final on était tous d'accord, donc c'est pas vraiment un coup de gueule.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas s'empêcher non plus de jouer. C'est-à-dire
je pense qu'il y a des jeux auxquels j'aurais dû m'abstenir de jouer.
Je pense qu'il faut faire des expériences. C'est ça que je veux dire. Avant de bien se connaître, faut quand même tester des trucs pour après se rendre compte. Ça finalement, c'est pas mon truc.
Moi, je sais par exemple que à part la façon dont on a de jouer Cthulhu de façon un peu gag en tirant parti de l'aspect fun du système, etc. Je sais, Vincent, que ça t'horripile, mais c'est comme ça qu'on y joue. Je suis désolé.
Tu me casses les couilles.
Non, mais je suis désolé.
C'est pas comme ça qu'on y joue.
Mais tu peux jouer d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, nous, on trouve que le fait que Cthulhu revienne au bout de 3 tours, mais qu'il est radioactif après s'être pris une ogive nucléaire, c'est du second degré, et que donc on y joue de façon un peu second degré. C'est-à-dire que, écoute, c'est comme c'est comme si des gens jouaient à Donjons et Dragons en utilisant un petit peu les voix et les mimiques de Donjons de Néalbuck. C'est comme ça qu'on joue à Cthulhu, c'est-à-dire qu'on se moque du média Cthulhu lui-même. Mais c'est qu'une manière de jouer avec ce jeu, c'est comme ça qu'on joue avec ce jeu.
C'est ça, mais c'est pas une généralité.
Mais c'est pas une généralité, c'est pas comme ça qu'on doit jouer à Cthulhu.
Ne présente pas ça comme une généralité.
Non, mais ce que je veux dire, et là où je voulais en venir, c'est juste que moi, je crois qu'il faut que je m'interdise de jouer 2 types de jeux. C'est des jeux d'amour et des jeux d'horreur. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans cet extrême-là, si on écoute les podcasts de la cellule où j'ai soit testé des jeux d'horreur, soit testé des jeux d'amour, à chaque fois c'est des jeux dans lesquels je n'ai pas su vraiment rentrer ou j'ai pas su vraiment m'immerger. Voilà. Je me dis mais finalement je devrais pas tester ces jeux-là parce que je suis tellement pas à l'aise avec ces contenus fictionnels malléables-là que ça me dérange et donc voilà. Et
parce
je reste
que
à la porte.
Pas.
De quoi?
Parce que tu crois pas.
Non, parce que je n'ose pas rentrer dedans.
La machine Romaric ne
c'est
croit
trop
plus en
intime,
l'amour et en la
c'est
peur.
C'est trop intime. Les peurs et l'amour, c'est des choses qui sont trop intimes pour être étalées sur la place publique.
Pour toi.
Ouais. Et
Parce que moi,
je pourrais jouer avec Flavie, mais je pourrais pas y jouer en enregistrant un podcast de la cellule après, par exemple.
Il y a les trucs d'amour, typiquement, qui moi, ont pu poser problème des fois à mes tables, c'est que les jouer en direct devant tout le monde, ça posait problème. Par contre, le jouer, donc, on reste dans le même jeu, hein, mais le jouer par mail ou par Facebook ou par chat interposé en faisant des descriptions complètes et tout, il y a des joueurs, ils n'y arrivent pas en face à face. Et là, en termes de créativité là-dessus, ils sont à fond et ils sont super contents quand tu les laisses faire ça. C'est qu'ils ont envie de créer une relation avec un PNJ sans pour autant décider de ses répliques à lui.
D'accord.
Mais de pas forcément avoir la personne en face et d'être dans un cadre plus intimiste. Alors d'accord. Que le jeu en scénar solo, ils y arriveront pas parce qu'ils sont en face de toi et on doit parler.
Ouais, c'est ça.
On en revient aux trois peurs. On en revient aux trois peurs.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
On en revient aux trois peurs que tu décrivais tout à l'heure.
Dans l'absolu, si on n'y arrive pas à les dépasser et qu'on n'a pas forcément envie d'eux, on peut trouver d'autres techniques et malgré tout, continuer à faire avancer l'histoire dans le sens qu'on a envie.
Et peux-tu jouer à un jeu que tu ne trouves pas crédible?
Mais moi, alors ça, c'est la question que tu soulevais au départ, de la crédibilité de l'univers. Écoute, c'est bien simple. À part Fatal.
Moi, j'ai.
Attends, je suis désolé, l'univers est vachement crédible.
Non. À part Fatal.
Pénétration.
On fera un
podcast peut-être sur Fatal. Par exemple, il y a eu Burps aussi qu'on a testé, avec Thomas au tout début de la cellule, pas le jeu préhistorique Burps, c'est un jeu de Julien Dupré qui caricature les rôlistes. Tu vois de quoi je veux parler, Jeff. Et donc ça, on n'a pas réussi à tester.
Oui, c'est une vaste blague.
C'est pas une blague, c'est un article en fait sur les rôlistes qui est présenté comme un jeu de rôle. Ça, j'ai voilà. De la même manière, ésotérique. Le jeu de rôle parodique de Cédric Ferrand, où il se fout de la gueule justement de la mouvance intellectualiste du jeu de rôle, on peut pas y jouer parce que c'est pas crédible, mais en fait c'est pas fait pour ça. Et d'où la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu connais un jeu de rôle qui a été fait pour être joué, qui est pas crédible au point qu'on peut pas y jouer?
Non, mais tu peux pas faire de généralité, mais moi, je peux t'en citer un.
Ah bah vas-y, fais péter.
Shadowrun. Pour moi, Shadowrun, je n'arrive pas à rentrer dedans parce que je ne trouve pas l'univers crédible.
Ouais, moi non plus, ouais.
Alors, moi je trouve ça ultra crédible. C'est-à-dire, moi c'est l'univers, je trouve que c'est une des prédictions par rapport à l'univers. Hein. Je parle juste de l'univers. Le système de jeu, j'ai plein de critiques, mais l'univers, je trouve que c'est une des prédictions de notre futur à nous, les plus crédibles.
Sérieux,
qui a été faite ces dernières années.
Des elfes qui apparaissent et il y a de la magie. Et des orques à moto.
Eh les gars, les elfes et tout ça, c'est qu'une caricature de certaines catégories sociales qu'on voit apparaître dans la société aujourd'hui.
Sauf que je n'y crois pas.
En
fait, si tu le fais en cyberpunk, t'as pas besoin de mettre des elfes si tu veux faire cette caricature-là. Précise bien clairement qu'il y a des castes sociales d'humains génétiquement modifiés qui ont des looks comme ça. Et le problème, c'est que ce soit des elfes, des nains, des orques,
pour vendre.
Moi, j'y crois pas. Ils auraient pu mettre des dragons en bikini sur la couverture pour vendre plus. Enfin, mais j'y crois pas. Moi,
d'accord. C'est vraiment ça aussi qui te posait problème, Vincent, par rapport aux elfes, aux nains et tout ça.
C'est vraiment exactement ça.
Ouais, c'est l'impression de voir un fourre-tout, quoi.
De voir un fourre-tout. Alors après, peut-être que le background l'explique. Peut-être qu'il y a une justification, mais je suis jamais allé jusque-là.
Moi, j'adore.
C'est-à-dire que dès le départ, j'ai un blocage, j'y crois pas.
Justement.
Je peux pas rentrer dedans.
Moi, je trouvais ça vachement intéressant. Je trouvais qu'ils avaient réussi à rendre l'apparition de la magie dans un futur contemporain hyper industriel ultra crédible. C'est-à-dire les magiciens se vendent au plus offrant, la magie est vraiment utilisée comme un outil. En même temps, elle crée de la goblinisation qui est en fait exactement ce qu'on voit apparaître en termes de manipulation génétique en bio et tout ça. Enfin, je veux dire, la goblinisation, elle est à nos portes aujourd'hui. Vous avez conscience que peut-être que dans 20 ans, il y a des gens qui choisiront des gènes pour avoir des oreilles pointues.
Mais pas par magie.
Non, mais quand tu vois... Non, mais pas par magie, mais grâce à la génétique. Et moi, je suis pas sûr que l'explication magique dans Shadowrun, elle soit. Alors, évidemment, elle existe, l'astral, etc.
Je l'ai jamais lu.
Ouais, mais bon. Je trouve ça vachement intéressant.
Le point soulevé, c'est que la crédibilité, là, elle intervient à un niveau ressenti. On n'a pas besoin d'avoir lu le bouquin pour se rendre compte que le truc ne nous plaît pas.
Très bien.
On va pas essayer de justifier vis-à-vis de ce qu'il y a dans le livre ou pas dans le livre. Enfin, c'est vraiment, on voit ce truc, on nous le présente, toutes les présentations qu'on en a eues, à chaque fois on a eu le même ressenti, et on n'ira pas plus loin parce
d'accord,
que
très
ça
bien.
Nous intéresse.
Je suis en train de me poser une question, moi. M'arrêtez si je me trompe, mais est-ce que vous avez déjà eu ce moment où il y a une campagne de jeu ludiste, hein, de base? Je vais pas dire de base. Il y a une campagne de jeu ludiste où au bout d'un moment, en fait, on joue la campagne, il y a pas vraiment le MJ, genre, il a pas vraiment réfléchi à la fin, un arc de fin et compagnie. Ouais. Et il y a un moment où juste on s'arrête de jouer parce qu'en fait, on y Et moi, je me demande, on n'y croit plus. Parce qu'en fait, on a des personnages tellement bourrins, des personnages qui sont tellement avancés, c'est même plus crédible. Je veux dire, en termes de règles, quand le jeu, au bout d'un moment, ça, c'est plus crédible. Parce qu'en termes de règles, on peut clairement encaisser 200 gobelins face à soi.
Ça nous est clairement arrivé dans Saint Seiya.
Et voilà, et ça, genre, truc, je me demande, est-ce que c'est pas un problème de crédibilité? Est-ce qu'on n'en arrive pas à s'ennuyer à cause du manque de crédibilité du truc? On n'arrive même plus à y croire. Quoi.
Quand tu réfléchis, par exemple, à Donjons et Dragons, et où tu te dis, à partir du niveau 6, je crois, un mage peut jeter des boules de feu. Qu'est-ce qui se fait chier à aller dans des donjons, le pauvre mage? Je veux dire, il se fait recruter par un seigneur pour aller brûler le champ des voisins et il fait sa fortune comme ça, quoi. Il n'y a plus besoin de faire un putain de donjon. Donc, si tu réfléchis en termes de crédibilité de l'univers, il y a les jeux à vocation ludiste, donjon, particulièrement.
Mais je crois que ça me permet de me rendre compte de pourquoi
tu parles finalement, Adrien. Je crois que tu es en train de réintroduire du réalisme.
Non, c'est une crédibilité dans le sens, est-ce que l'univers a une cohérence autour de ces mécanismes dedans?
Là, c'est la crédibilité des personnages. Est-ce qu'il y a crédibilité au personnage d'être dans cette situation-là? Et clairement, cette sorte du jeu quand ton personnage n'a pas la crédibilité. Enfin, il y a aucune logique au fait qu'il soit là.
En fait, le mage qui irait dans un donjon, c'est aussi crédible que si aujourd'hui le pape il avait un AK-47 et qu'il allait dégommer du terroriste en Afghanistan. Enfin, c'est.
Ouais. Moi, je me demande.
C'est faisable. Hein,
ouais, le système le permet.
Le système le permet, mais. C'est juste, je me demande jusqu'où le jeu de rôle, en fait, c'est pas un jeu. On devrait presque l'appeler le jeu
de la crédibilité.
Mais oui, parce qu'en fait, je trouve que beaucoup des expériences qu'on a dans les jeux de rôle viennent du fait de l'expérience qu'on a de la crédibilité de quelque chose, enfin de tirer sur cette crédibilité. Très souvent on est aux limites, on s'amuse. En fait, j'ai presque l'impression que ce qui résiste dans le jeu de rôle, c'est ça, c'est on s'amuse à tirer la crédibilité au maximum vers des choses qui seraient inattendues, à surprendre, mais tout en restant crédible, etc. Je me demande jusqu'où cette crédibilité est centrale.
Dans le cas de donjon, je pense que tu as souvent
Vincent.
Vraiment un fossé entre les règles et l'univers. Ravenloft, par exemple. C'est-à-dire Ravenloft, c'est ce qu'on disait, je veux dire, à un moment donné, quand tu peux, toi, mage, tirer des boules de feu ou le gros guerrier, te taper des dizaines ou des milliers de gobelins, à quel moment tu peux jouer dans un jeu d'horreur comme Ravenloft? À quel moment ton personnage peut avoir peur, quoi?
Ouais, bien sûr. Ouais.
Sachant qu'avec un peu de poussière de diamant, on ressuscite.
Donc là, il y a un vrai problème en termes de crédibilité, c'est-à-dire c'est des jeux qui sont, selon vous en tout cas, tellement peu crédibles. En tout cas, il manque trop de crédibilité.
Il peut arriver à un moment où.
Ouais, mais alors après, à nouveau, dans Donjons et Dragons par exemple, la question se pose pas parce qu'en fait, Donjons et Dragons c'est un jeu de donjon, donc au final, c'est.
Ça l'était, mais ça l'est plus pour tous les univers.
Alors après, sur la dernière version, il paraît. Enfin, moi, je n'ai pas joué du tout, donc je sais pas, il me paraît que ça revient, ça réassume complètement ce côté-là, jeu de plateau, figurine.
Je sais pas, je l'ai pas essayé à la dernière, mais Donjon, à la base, c'est un système générique, il y a des univers qui ont été greffés, et certains univers s'accordent quand même assez mal avec ce que propose de faire le système.
Mais après, c'est aussi un, je pense que autour d'une table de jeu, on va pouvoir se mettre d'accord sur se dire, ben, on sait qu'il y a ces failles-là, ou on le sait pas, mais bon, et on va les négliger parce que, ben, au final, on s'en fiche, enfin, on peut arriver à mettre de côté certains éléments pour arriver à une crédibilité quand même du groupe.
Donc tu veux dire que c'est aussi aux meneurs de jeu d'isoler, en tout cas dans les jeux de rôle classiques,
aux meneurs de jeu et aux joueurs,
de faire d'un peu choisir la crédibilité dont ils ont envie autour d'une table, quoi. Et là, du coup, ben j'ai le droit de jouer à Monk Toulou avec
la
crédibilité,
bien
à moi.
Sûr, complètement.
Jeff.
Le problème est aussi, je trouve, pour renforcer l'idée de.
Il y a pas de problème, on est aussi.
Non. De quoi?
C'était une petite blague référence à Chan.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que, pour renforcer l'idée d'Adrien, c'est que, il y a aussi le problème des jeux, je dirais, qui te permettent de jouer tout.
Bah oui.
Ouais, je suis d'accord.
Et ça, ce truc-là, effectivement, je pense que Donjon, l'exemple de Ravenloft, en plus, je l'avais plus ou moins en tête.
Anima.
C'est Anima, par exemple, Vampire, aussi, tiens, un deuxième exemple. Mmh. Où, effectivement, on va dire, tu peux jouer de tout. Mais alors, le maître de jeu, donc, s'il doit se retrouver à gérer je ne sais combien de thématiques, je dirais autant de thématiques qu'il y a de joueurs. Finalement, on joue à un jeu de quoi? Parce qu'on a un personnage qui est un chasseur de démons, donc il est dans une logique un peu horreur. On a un autre qui est Un Léonidas de 300, donc on est dans un truc épique, et donc au fur et à mesure, ça aussi,
comment
ça peut,
c'est
ça
crédible,
peut créer
l'ensemble, ouais.
Ouais, ça décrédibilise le truc.
Là, on retrouve peut-être un peu de cohérence aussi. C'est-à-dire là, on retrouve à nouveau le sens de crédibilité au sens de cohérence. C'est-à-dire il faut quand même que les joueurs forment un espèce d'ensemble cohérent. Par exemple,
faut qu'on joue tous au même jeu en fait, tout bêtement.
Tout simplement. Mais là, on retourne sur le trip de la coterie de l'impossible que je décrivais dans Vampire. Comment tu fais pour jouer avec des vampires qui ont des objectifs et des intérêts totalement différents de par leur clan, etc.
Un
quoi.
Qui a été minimaxé,
vampire, c'est
l'autre.
Attends, je sais pas, j'ai pas rien entendu à ce que vous avez dit. Qu'est-ce que tu voulais
moi
dire?
Moi, c'est une bêtise.
D'accord.
Non, mais je m'enflamme, parce que depuis le temps que j'entends ça en écoutant les podcasts quand je suis pas là, sur le coup de la coterie de l'impossible, mais j'ai envie de répondre à ce truc-là, depuis un bout de temps. Parce que, à Vampire, je vais pas dire que je suis le grand spécialiste de Vampire, faut pas déconner.
En tout cas, tu connais bien White Wolf, ouais. D'ailleurs, on va faire du podcast avec toi sur Loup-Garou et tout.
Ah ouais, de toute façon, faut je vous présente Werewolf. C'est un, il y a beaucoup de clichés par rapport au World of Darkness que j'aimerais
bien. T'as pas une moto, t'as une roquette.
Donc, mais on aura peut-être l'occasion d'y répondre à ce moment-là, plutôt que de faire ça dans ce podcast. Juste un point. Allez.
Juste un point. C'était pour la coterie de l'impossible. Juste dire, bah oui, si effectivement t'as je ne sais combien de personnages qui ont des objectifs différents, faut pas oublier que la coterie, c'est quoi? C'est tout simplement, on est faible et on va s'allier pour baiser la gueule au plus fort, façon de parler.
Oui, mais pour autant.
C'est ce truc-là qui est important,
mais
qui est complètement oublié à chaque fois.
Mais non, mais bien sûr, mais c'est pas parce qu'on s'allie de fait que autour d'une table, on n'a pas des objectifs différents. On peut très bien s'allier, par exemple, aujourd'hui à la cellule, on s'allie pour faire un podcast. On est tous alliés pour faire un podcast, entre guillemets. Mais pour autant, Vincent, il a son taf, il a sa propre vie avec ses propres contacts. Toi, t'as ton propre taf avec Jeff. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème de la coterie de l'impossible, c'est que ok, on est tous réunis pour survivre, mais derrière, on a aussi des tas d'objectifs qui sont totalement différents. Et quand le salubrien, il essaye de négocier pour éviter d'être repéré par le trémère qui est dans sa coterie de l'impossible, je peux te jurer que c'est pendant que le salubrien y joue, le trémère il s'emmerde, et inversement. Et c'est ça le problème de la coterie de l'impossible. Je suis d'accord que dans un livre, ça fait très bien ce que tu viens de dire, mais dans un jeu de rôle, eh ben on se fait chier concrètement.
Eh ben justement, tu tombes exactement sur le point qui m'intéresse, et on sort de la coterie de l'impossible, je te rassure, pour pas faire un débat que World of Darkness. Non, c'est aussi là, quelque part, qui est calé la cohérence. C'est par rapport au maître de jeu aussi. C'est-à-dire qu'il faut quelque part aussi caster un peu ses personnages de temps en temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Nous, c'est un truc qu'on rencontre en GN. Le casting, c'est important.
Ah ben, c'est très important. À partir du moment où, on reste dans l'exemple, White Wolf. Il y a un joueur qui veut te jouer un salébrien. Il y en a un qui veut te jouer un tréméré. Un autre qui veut te jouer un assamite. Allez, histoire que le pompon soit sur la Garonne. Effectivement, au bout d'un certain temps, faut réfléchir un peu en se disant, oui, ils vont peut-être pouvoir s'allier pendant quelques scénarios, mais pas plus. Et donc là, je pense qu'il y a véritablement une histoire de casting aussi quelque part. C'est-à-dire que par rapport au concept proposé par les joueurs, de dire non, désolé, ça va peut-être pas le faire. Et la cohérence, elle est là. Je pense que le maître de jeu aussi a une table et le gardien de la cohérence.
D'accord.
De son groupe de joueurs.
C'est souvent le cas, effectivement. C'est souvent non dit, mais c'est souvent le cas. Dans beaucoup
Moi, j'aime pas cette idée.
C'est
vraiment
une
autre thématique. MJ, gardien de la crédibilité. Ça marche bien dans un dispositif classique. Le problème, c'est qu'il y a plein de dispositifs différents.
J'ai pas dit gardien de la crédibilité, gardien de la cohérence.
D'accord, mais bon, on l'a un peu défini jusqu'à maintenant comme étant plus ou moins. Enfin bon, d'accord. On va pas s'apesantir là-dessus. Vincent,
tu voulais. C'est un peu ça quand même, quoi. Quand t'as ta table Superman et Mulder, t'as quand même un problème de crédibilité dans ton scénar de l'appel de Cthulhu, par exemple.
Oui. Et ça arrive.
Mais ça, c'est le souci du MJ. C'est à lui de rendre crédible son. Enfin, et sa partie aussi.
Ouais.
Bon. Ouais, c'est ça le problème, c'est que si. En fait. Si les règles lui disent pas éviter ce genre de situation, le problème c'est qu'il va peut-être pouvoir tomber dedans parce que il a pas calculé que ça poserait problème. Ouais. C'est ça le reproche qu'on fait à ce genre de jeu, c'est attention, si vous voulez permettre de tout jouer, donner des cadres sur comment limiter le pour pas que ça parte dans tous les sens.
Pour moi, le problème, si tu veux, Jeff, c'est que dans ton discours, il y a comme un espèce de paradoxe. D'un côté, tu dis que le problème, c'est les jeux qui permettent de tout faire, et de l'autre, tu dis non, il y a pas de problème puisque c'est le MJ en fait qui fait tout, enfin qui décide en fait de qui fait quoi et comment.
C'est le jeu permet de tout faire, mais le MJ va dire on va faire que du bourrin.
Moi, je veux bien.
Ou les joueurs en association avec le MJ.
Oui. Moi, je veux bien.
C'est plus ce que dit Maxime, c'est-à-dire que attention, c'est pas je tape pas dans les deux extrêmes.
Si on prend.
Ce que je veux dire par là, c'est que. Il faut aussi, je dis pas que le maître de jeu doit être le gardien suprême de la cohérence et de la crédibilité. Je dis aussi, il faut qu'il garde ça à l'esprit, quelque part. Quand il va créer ses chroniques.
Si on prend le cas d'Anima, où tu peux jouer un Wuxia comme un démon, Je veux dire, là, c'est carrément le maître de jeu qui fait lui-même du coup le jeu, quoi. C'est lui, c'est le maître de jeu qui dit à quoi on va jouer ce soir. Parce qu'on peut jouer. Dans, je suis désolé, hein, mais dans Anima, on peut jouer à Chin comme à Warhammer 40. Enfin, pas Warhammer. Si, Warhammer 40 000. Je dis pas de conneries. Hein. Il y a même de la technologie et tout. Dans, on peut aller très très loin dans la technologie. Il y a des races extraterrestres avec des super, de la super technologie et tout ça dans le jeu. Donc là, du coup, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire, ce que tu peux faire. Bon, donc on referme peut-être ça. Après, chacun voit à sa table par rapport à ses jeux, et etc. Le temps file, hein, messieurs. Moi, j'ai quelqu'un à aller chercher à la gare. Donc, très rapidement, vous vouliez aborder la crédibilité, l'autorité aussi de l'auteur par rapport à son œuvre. Est-ce que c'est un sujet aussi problématique? Je suis pas sûr que ce soit un sujet si problématique, c'est-à-dire qu'en fait ça dépend des auteurs. Bon, c'est sûr que c'est mieux d'avoir fait de la philo si tu veux faire un jeu de rôle philosophique.
Ça va arriver sur le type de crédibilité dont on parlait avec Vincent.
Crédibilité
sur, par exemple, par exemple Shadowrun, nous on n'y croit pas, et la crédibilité historique, ça va se mettre sur le même plan, c'est-à-dire si je connais un sujet, je vois un jeu de rôle qui se prétend ce sujet-là et que je vois que c'est complètement à côté de la plaque, je vais avoir ce même blocage que j'ai vis-à-vis de Shadowrun.
D'accord, ouais.
Je pense, une sorte de d'arnaque intellectuelle, ou enfin voilà.
D'accord.
Donc c'est.
Donc tu regardes un peu le curriculum vitae des auteurs avant d'acheter un jeu sur.
Pas forcément le curriculum vitae, mais.
Sois honnête, Adrien. Tu le fais, ça?
Ah non.
Tu le fais sérieusement?
Non, je ne lis pas le curriculum.
Voilà, on est d'accord. Ouais.
Non, mais donc, par contre, quand tu lis le jeu, si tu te rends compte que c'est un peu à côté, tu risques de le sentir.
Ouais. D'accord. Ouais. Si t'avais senti, par exemple, quand t'avais vendu Sens comme un jeu de rôle philosophique et que derrière,
putain, avec de la cohérence, moi je me suis senti bien.
Ouais, hein. C'est ça. Ouais. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. Sens, il y a de la philosophie dedans, et on. Comme c'est annoncé, donc c'est. Il y a pas d'arnaque sur l'étiquette.
TDUM et tout ça.
Mais tu peux jouer là-dessus, parce que prends la gamme de l'Appel de Cthulhu 6e édition. C'est des bouquins. Il y a pas mal de bouquins qui sont très documentés historiquement. Et récemment, ils ont sorti donc Byzance en 800, qui est présenté exactement comme les autres bouquins. Donc, si tu veux au bout de 40 suppléments, tu te dis c'est très documenté historiquement. Et quand tu te renseignes, tu aperçois qu'ils ont joué avec l'histoire pour créer quelque chose qui est pas très loin de l'Uchronie. En fait.
Ah.
Mais c'est pas annoncé comme ça. Ah, et bien. Comme tu en as eu pas mal avant qui étaient très documentés, quand tu as le bouquin entre les mains, on ne dit à aucun moment que c'est vrai, mais tu penses que c'est vrai.
Ah, c'est bon, ça.
Moi, ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment, Birdman, où la bande-annonce est extrêmement mensongère sur le film.
Ouais, carrément.
Et ce film, je l'ai détesté juste à cause de ça. Le film, j'ai trouvé que c'était de la merde juste à cause de la bande-annonce.
Moi, je l'ai adoré parce que je suis pas allé voir la bande-annonce.
Comme Prometheus, qui a été très mal vendu.
Pour l'époque, je vais faire mon vieux, la même chose avec Fight Club. Fight Club, la bande-annonce ne te révèle rien sur ce qui va se passer.
Intéressant aussi ça.
Juste
voir que la crédibilité d'un jeu vient aussi de son emballage, c'est-à-dire de la façon, de la manière dont il est emballé et de ce qu'on vend à l'intérieur. C'est intéressant, ça. On n'a pas parlé de ça, mais la crédibilité d'un jeu.
Tu prends un jeu historique, si on te dit qu'il est écrit par quelqu'un qui a un doctorat en histoire, jamais tu vas aller vérifier les infos qui sont dedans.
Ouais, c'est clair.
Quand les gens de la cellule disent qu'ils sont experts en jeu de rôle.
Ouais. C'est différent. C'est différent. Toujours tu vas vérifier.
On m'a dit que Sens est écrit par un philosophe, j'ai jamais été.
Ça, jamais vu tes diplômes.
Ah, bah.
C'est clair, on n'a pas vu tes diplômes là-dessus.
Moi, je trouve que t'as écrit que des conneries du début à la
fin. Mais c'est sûr, on a fait un podcast qui le dit, je dis que des conneries de toute façon. Donc dernière crédibilité dont on a à peine parlé, j'en ai vraiment rapidement parlé parce que je voulais faire un truc en deux parties, c'était la crédibilité du média jeu de rôle. On parlait de crédibilité éditoriale, c'est pareil, on va refermer le chapitre très rapidement, on n'a plus le temps. On est pressé par le temps dans ce podcast, c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive.
Il est perdu sous la pluie de Bretagne.
On doit aller chercher Vivien.
Voilà, on fait une pause.
Rapidement, la crédibilité du média, moi j'ai tendance à dire que tant qu'on n'a pas joué au jeu de rôle, on ne peut juste pas en parler. C'est-à-dire que tous les gens qui disent connaître le jeu de rôle parce qu'ils ont vu des gens y jouer, ou parce qu'ils sont sortis avec un rôliste, ou parce qu'ils ont vu l'émission, mais je vous rappelle encore que le masculin est le neutre en français, hein, je suis désolé. C'est pas moi qui l'ai inventé cette règle. Et donc du coup... ceux-là ne connaissent pas le jeu de rôle, et donc pour faire la crédibilité du média, en fait, je crois que la seule manière de faire, c'est de faire jouer ses potes. Et voilà, et c'est ce truc. Est-ce qu'il y avait des points à rajouter sur ce point? Est-ce que vous trouvez que le jeu de rôle est un média crédible à échelle des autres par rapport aux autres médias?
C'est à quel niveau? Parce que là, je vois pas du tout.
Crédible mais modeste.
Mais c'est-à-dire aujourd'hui.
Est-ce que le jeu de rôle est bleu?
Ah, tu trouves que c'est ça fait le
cette question ça, je comprends pas, comment que quoi que peut que quoi.
D'accord. C'est un média jeune donc.
Médiatiquement en fait.
Bah c'est un ça. Média jeune donc je pense que comme ouais. Il est jeune, il est pas crédible.
Ouais, il est pas encore crédible.
Attendez, vous voulez dire crédible par rapport à quoi?
Médiatiquement parlant, c'est ce que je te dis
dans les médias. Est-ce qu'il est présent? Parce que est-ce que crédible est forcément.
Est-ce qu'il a une assise? Est-ce qu'il a
Tu veux dire est-ce que le jeu de rôle tel qu'il est présenté globalement médiatiquement est correspond à la réalité telle que nous la vivons?
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ouais. Désolé.
C'est ça.
Ouais, OK. Est-ce que l'image que les gens par exemple se feraient du jeu de rôle en y assistant, en regardant, en feuilletant des magazines, en voyant justement un rôliste jouer
je connais
fille.
Pas l'image médiatique
Excuse-moi,
du jeu de rôle.
Mais je vais très très vite parce que en fait ça fait écho à une autre question que je vous posais avant en fait. Et du coup, j'ai été très très vite sur cette question mais voilà, c'est ça.
Enfin moi si je regarde des gens jouer au jeu de rôle, je trouve ça très chiant.
Oui, voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça.
Imagine quelqu'un qui connaît pas.
C'est ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que je trouve que en fait, le jeu de rôle de l'extérieur est un média qui manque cruellement de crédibilité. Il y a pas de monsieur en costard cravate pour te le vendre.
C'est pas un jeu sexy.
Il y a pas. Enfin, c'est pas un jeu sexy. Il y a pas. C'est ça.
Moi, je connais pas le jeu de rôle de l'extérieur, donc c'est pour ça que je répondrai pas.
Oui, d'accord. Ok.
Je le vois pas. Je connais pas la médiatisation du jeu de rôle. Bon, je le vis et je me fais pas chier.
Je suis à côté de la plaque probablement sur cette question, mais voilà. C'était juste un dernier point que je voulais aborder par rapport à ça. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps.
Faut demander à quelqu'un, tu vois, qui connaît pas le jeu de rôle à côté de nous. Genre, on te le présente comment a priori? Moi, je sais pas.
Ouais. Je sais pas.
Comment le présenter aux gens? Je pense qu'on te le présente.
On est trop engagé dans le jeu pour
pouvoir
le dire.
C'est personnel que c'est plutôt quelqu'un qui te le présente en général. Donc c'est extrêmement dépendant de la personne qui te le présente. Il n'y a pas de pub à la télé, il n'y a pas d'affiche. Déjà, pour aller dans un magasin où il y a ça, faut déjà être un petit peu lancé dans ce type-là d'activité. Donc déjà, t'es pas extérieur complètement. Les seuls gens extérieurs complètement, c'est peut-être les parents. Tu demandes à un parent comment tu vois
justement, j'aurais dire de façon basique, effectivement, il manque de crédibilité. Ou alors, c'est ce que tu disais, c'est crédible ou modeste. Dans le sens où, j'aurais tendance, j'espère que je ne fais pas un cliché de la société quand je vais dire ça, mais effectivement, il y a, comme tu l'as dit, il n'y a pas de publicité, ça passe pas à la télévision. Il n'y a pas de super gros événements par rapport à ça.
Pas vrai.
Donc du coup, attends, si je peux juste terminer, je pense que ça c'est la norme en termes de crédibilité dans l'esprit de la société, quelque part.
Toi, tu vas sortir une connerie.
Non, Big Bang Theory. Les gens jouaient au jeu de rôle. Alors après, c'est leur
c'est une série hyper caricaturale.
Ouais, mais le Donjon Dragon Clou n'est pas si caricatural dans plein de cas, hein. Enfin.
X-Files aussi, hein. Ouais.
Les Lone Gunmen,
et les échecs à trois jours.
C'était dans
les échecs à trois jours.
Et comme ils disent dans le film Lego, si ça passe à la télé, c'est crédible.
Ah oui. Oh. Ouais, bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est beau.
Merci.
Magnifique.
Merci.
Bravo. Voilà. Il ne fait pas que manger des frites et du jambon, cet homme-là. Il fait aussi des réflexions.
Bonne fin
de podcast. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Merci à toi, Maxime, d'avoir apporté ce sujet. À bientôt la semaine prochaine pour un prochain podcast.
Salut.